Pour cette troisième partie de ce premier radiobarque de notre saison, monsieur le sous-préfet de Narbonne, Rémy Récio, alors je reviens quand même un petit peu sur les deux jambes dont vous avez parlé tout à l'heure, parce que vous avez longuement expliqué le travail d'une jambe, oui. Si vous permettez. Oui. Quelle est la mission de la seconde?
Oui, oui. Merci de me donner la possibilité d'expliquer ce qu'est, et elle est importante, la mission que j'appelle l'accompagnement du territoire, c'est-à-dire à la fois l'ingénierie territoriale et l'accompagnement concret de la vie concrète des habitants de l'arrondissement. C'est bien sûr l'accompagnement des élus, des grandes forces vives du département et du territoire, que sont les entreprises, les associations, pour faire vivre le territoire. Hein. Alors, quelques exemples. Par exemple, puisque vous souhaitez qu'on l'ancre dans la réalité, hein, c'est l'accroissement du périmètre portuaire de Port-la-Nouvelle, avec les enjeux économiques et sociaux qui vont avec. C'est, par exemple, je vous prends à la fois des très gros et des très petits, c'est accompagner Bise Minervois dans la rénovation de son centre-bourg avec le dispositif des villages d'avenir, avec de l'argent et des moyens.
Oui, ça s'est fait récemment, d'ailleurs.
C'est pour ça que je vous en parle. Mais oui. C'est aussi l'abbaye de Gossan à Bizanet, c'est les entreprises via France Relance pour les Narbonnais, les ateliers d'Occitanie, par exemple, qui ont fait l'objet d'aides concrètes de l'État, mais c'est aussi Lassagne, le projet de Lassagne à Gruissant, ou le pont des marchands, pour reprendre une activité et une actualité assez récente avec Narbonne. Donc c'est à la fois ces choses-là, c'est aussi, par exemple, accompagner les parcs naturels régionaux. On va bientôt inaugurer le siège du parc de la Narbonnaise au Grand Castellou. C'est un chantier sur lequel j'ai eu à intervenir à de nombreuses reprises. Je viens de vous parler du pont des marchands, mais c'est aussi la respiration démocratique du territoire avec l'organisation et l'exécution des élections municipales. Il y en a eu une demi-douzaine l'année dernière pour les municipales partielles. Les élections européennes, les élections législatives dont nous sommes sortis.
Et l'élection supplémentaire.
Voilà.
Justement.
Donc tout ça, c'est bien sûr le corps préfectoral et l'État qui s'en occupe. Hein. Le contrôle de l'égalité. Sur les actes des collectivités auxquels je faisais allusion tout à l'heure, peu ou prou, retenez que la sous-préfecture de Narbonne, c'est 25 000 actes administratifs qui sont transmis pour contrôle et qui sont contrôlés. Ça vous donne aussi le travail de mes équipes à la sous-préfecture. Mais c'est aussi l'ingénierie territoriale, l'accompagnement de la vie économique et culturelle. Pour vous donner et vous faire toucher du doigt ce qu'est l'investissement du sous-préfet sur le territoire avec l'autorité du préfet, c'est l'injonction directe dans l'économie réelle du territoire de plus de 10 millions d'euros par an. Les fonds qui aident les collectivités à s'équiper et à porter des projets, la DETR, on en entend parler.
Alors, les fonds d'État. Hein,
voilà, oui,
les fonds
d'État. Mais qui sont donnés directement aux collectivités pour faire ces travaux. L'année dernière, c'est 2,4 millions de DETR, c'est 1,5 million de DECIL. Ce sont des chiffres, mais derrière les chiffres, ce sont des entreprises locales qui travaillent. Et c'est la vie quotidienne des administrés de l'arrondissement qui progresse. Parce que quand on crée, par exemple, une maison des services, quand on crée une nouvelle école, quand on équipe de manière thermiquement performante une mairie, quand on change les vieilles lampes par des LED et qu'on améliore l'éclairage, quand on refait un centre-bourg, concrètement, cet argent public, il vient au soutien d'autres cofinanceurs que sont souvent le département, la région.
Exactement. Etc.
Mais c'est du concret pour les gens, ça. Et ça, c'est, si je rajoute les fonds d'investissement et ceux de la politique de la ville, c'est concrètement sur une année 10 millions d'euros qui directement vont dans l'économie réelle et les entreprises et les associations du territoire pour que nos administrés voient concrètement leur vie changer. C'est ça qui est important.
Oui,
et c'est en ça que l'accompagnement, c'est la deuxième jambe du sous-préfet. On y rajoute bien sûr des missions que j'exerce pour l'échelle départementale. Je pense aux énergies renouvelables, aux fronts de mer, mais également la sécurité au quotidien, les feux d'artifice, les taxis, les ambulances. Voilà, tout un panel d'interventions qui, ajoutées à la sécurité, font que cet accompagnement territorial rende complet l'intervention de l'État, la rende si possible visible, ça participe de notre rencontre aujourd'hui, et la rendre lisible surtout.
Oui, c'est ça. Voilà. Et pour reprendre votre expression, ça c'est en temps de paix. Il n'y a pas de crise.
Exactement. Voilà.
Et alors, bon, on n'a pas le temps d'évoquer l'ensemble de tout. Vous avez évoqué le gros chantier, par exemple, de Port-la-Nouvelle, qui est un chantier national et qui va durer sans doute des années. Mais en ce qui concerne l'Aude, la grande récrimination ou la grande inquiétude du moment, c'est l'eau pour les viticulteurs. Il va falloir conserver l'eau au maximum, il va falloir ajouter des barrages ou des rétentions, des bassins de rétention d'eau, etc. Le rôle, justement, votre rôle là-dedans, celui, le vôtre ou celui des sous-préfets, quel sera-t-il ?
D'abord, particularité, c'est que l'Audin ne vit pas au milieu, c'est-à-dire c'est soit on manque d'eau,
oui.
Soit il y en a trop.
C'est trop ou pas.
Et les inondations, les narbonnés et les habitants du territoire savent bien ce que ça veut dire. Parce qu'il se trouve qu'en plus, nous sommes à l'embouchure de l'Aude, nous. C'est ou trop ou pas assez. Mais je dirais la période normale, on a peu l'habitude de la gérer. Sur la gestion du manque d'eau, parce que la gestion du trop, on est dans la crise et on est dans des choses qu'on sait faire avec des schémas d'intervention et de protection des populations. Pour le manque d'eau, c'est un travail collectif. Parce que c'est d'abord repérer quels sont les besoins. Il y a des besoins vitaux. Je pense bien sûr à l'eau potable, c'est la première idée.
Mais
les agriculteurs, nos viticulteurs ont un besoin vital pour la viticulture de l'Aude. Il y a ensuite des usages de seconde, je dirais, importance que peuvent être les usages touristiques, les piscines, les activités aquatiques. Bon, donc il faut déterminer d'abord une grille d'usage et d'usagers, puis une priorisation. Mmh. Et le préfet, puisque c'est le préfet, avec ma collègue secrétaire générale qui chapeaute le comité de gestion de l'eau, il est là, en fait, en coordonnateur et en grand ensemblier, finalement, de tous ces intérêts-là, qui passent aussi par des syndicats d'exploitation, par des syndicats d'irrigation agricole, mais aussi par les collectivités, mais aussi par des chefs d'entreprise et des associations. Tous ces impératifs de gestion de l'eau, avec les impératifs de sécheresse et malheureusement de restrictions qui sont les nôtres depuis maintenant plusieurs années, ils sont pris de manière collective, assumés par le travail de responsabilité juridique du préfet, mais assumé collectivement à travers une instance que le préfet coordonne et anime.
Oui, et on s'aperçoit que c'est très complexe.
C'est très complexe parce que chacun a de bonnes raisons revendiquer un usage quasiment privatif de l'eau.
Oui, complexe et parfois
il n'en demeure pas moins
conflictuel.
Oui, mais il n'en demeure pas moins que quand un bien devient rare, il faut apprendre à le partager. Et c'est une nouvelle culture qu'il faut bien sûr s'approprier, ce partage de la ressource, mais aussi, parce que là on est toujours dans le curatif, dans le préventif, quels sont les moyens par lesquels on peut essayer de faire que nous ne soyons pas en crise à des périodes qui sont identifiées. Nous savons tous très bien que globalement l'été correspond à la période la plus difficile. Et vous y faisiez allusion. Et tout ça, ça passe par un dialogue confiant avec des porteurs de projets, par exemple de retenue. Il y a un dialogue constant et très fluide entre le monde de la viticulture, mais aussi la chambre d'agriculture,
et les autorités
préfectorales qui ensuite doit mettre autour de la table tous les acteurs et notamment tous ceux qui vont autoriser administrativement ces retenues d'eau pour faire que nous puissions, j'allais dire, en temps non urgent, avoir une réserve d'eau disponible pour qu'ensuite on puisse la partager quand les temps deviennent difficiles.
Et par exemple, sur l'extension du projet Aqua Domitia avec BRL, j'imagine que vous serez partie prenante aussi.
Bien évidemment, et ce d'autant plus que là, il n'aura échappé à personne que cet accroissement il ne concerne pas que le département de l'Aude.
Pour être plus clair, excusez-moi, j'ai été pas suffisamment clair, mais c'est l'eau, il s'agit d'amener l'eau du Rhône qui parvient déjà pratiquement à nos portes, mais de l'amener un petit peu plus loin, c'est l'eau du Rhône, BRL étant Baronne-Languedoc.
C'est l'eau du Rhône, mais avant d'arriver chez nous, il faut s'occuper du Gard, de l'Hérault, de l'Aude et des PO. Qui mieux que l'État, à travers les préfets qui coordonnent au niveau départemental et le préfet de région qui a la main mise sur la vision globale de ce projet, nous sommes, nous, des grands ensembliers et des facilitateurs de projets.
D'autant plus que l'eau arrive déjà depuis pas mal d'années. Il s'agit de prolonger.
Et vous voyez que nous rejoignons un peu la Via Domitia.
Oui. Sur le parcours, oui, absolument. Pour conclure, alors un petit mot sur votre parcours, Monsieur Ressio. Vous êtes à Narbonne aujourd'hui. En général, un sous-préfet a beaucoup vadrouillé, si vous me permettez l'expression, avant d'arriver en poste. Et puis, il continuera peut-être. Quel est, grosso modo, d'abord, par formation, vous, est-ce que enfant vous imaginiez entrer dans la préfectorale?
Alors, je considère que je n'ai pas vadrouillé, mais j'ai beaucoup servi. Précision. Alors, il se trouve que par un hasard curieux, quand j'étais petit, J'étais à Narbonne, en fait, puisque c'est un hasard, mais c'est comme ça. Je suis né dans l'Aude, j'ai grandi à Carcassonne et dans la Montagne Noire, mais mes parents avaient un bateau sur l'étang de la Nautique.
Oui,
et donc,
bon.
Je voyais la cathédrale de Narbonne depuis la Nautique, et je n'aurais pas cru, si c'est votre question, un seul instant, évidemment, qu'un jour je serais sous-préfet à Narbonne. J'imaginais même pas être sous-préfet de tout court. Par construction, j'ai grandi à Carcassonne, j'ai eu mon baccalauréat au lycée Paul Sabatier à Carcassonne, j'ai fait ensuite des études de droit à la faculté de Montpellier, faculté glorieuse de Montpellier, où j'ai obtenu mon entrée à une école particulièrement difficile à obtenir à l'époque, et l'École nationale de la magistrature. Donc j'ai eu une première partie de carrière comme magistrat de l'ordre judiciaire, j'étais magistrat du parquet.
Donc finalement, au démarrage, vous êtes magistrat, ouais. Il faut que les gens comprennent, donc un préfet ou un sous-préfet peut être un magistrat qui, à un moment, pour tout un tas de circonstances, a choisi une autre voie.
Absolument. Je suis passé ensuite par une autorité indépendante, et c'est là que je suis devenu sous-préfet. Retenez, parce que au-delà de mon cas personnel qui n'est pas très intéressant, retenez que le corps la mission assumée par les préfets et les sous-préfets, c'est à peu près une trentaine de corps d'État, qui concourent en fait à l'arrivée dans des postes comme le mien de hauts fonctionnaires pour la plupart du temps, mais pas forcément, il y a aussi des gens du privé. C'est 30 sources possibles d'approvisionnement du corps préfectoral.
Là encore, grande complexité. Merci en tout cas à Rémy Récio, sous-préfet de Narbonne, d'être venu à la fois donc nous expliquer votre tâche, votre mission, vos actions, et puis d'avoir inauguré cette série de Radio Barque pour cette nouvelle année. Le prochain invité sera alors Bertrand Malquier, que vous connaissez bien, maire de Narbonne et président du Grand Narbonne. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Merci Rémy Récio, et aux auditeurs, à la semaine prochaine.
Belle saison à Barque-en-Seine.